Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi, c'est donc la Libre Antenne, vous connaissez le principe, dans 30 minutes, vous pourrez commenter tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale, donc appelez-nous, rejoignez-nous, venez lancer le débat sur l'antenne de RFI, je le dis quasiment tous les jours, n'hésitez pas, aucun sujet n'est tabou, nous vous donnons la parole, 33 9 693 693 70, vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais avant de passer à la libre antenne, comme tous les matins à cette heure-ci, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, et bien là aussi, n'hésitez pas, vous nous appelez et nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, vous répondent évidemment en direct. Et pour commencer, des questions sur le procès des têtes pensantes de la révolte des parapluies à Hong Kong. Cette révolte, rappelez-vous, c'était des centaines de milliers de Hongkongais il y a 4 ans qui paralysaient le cœur du poumon économique de l'Asie, un vaste mouvement de désobéissance pour réclamer plus de démocratie, d'autant que, faut-il le rappeler, Hong Kong est sous la pression de Pékin. Finalement, cette contestation s'était soldée par un échec. Le gouvernement hongkongais avait rejeté en bloc les revendications de ces milliers, dizaines de milliers de Hongkongais. Tim, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Juan.
Vous nous appelez de Kinshasa et vous avez entendu sur RFI l'ouverture du procès des leaders de cette révolution.
Exactement, exactement. Et par rapport à ça, j'ai des préoccupations. 4 ans après les faits, pourquoi il y a l'ouverture de ce procès, c'est maintenant, cette semaine. Et la deuxième, parmi les 9 accusés, il y a 3 qui sont considérés comme des héros et des victimes. En quoi cette image peut jouer sur leur jugement?
Ah, bonne question, effectivement. Pourquoi a-t-il fallu attendre 4 ans pour lancer ce procès? Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Juan, bonjour Tim.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international de RFI. Il y a 4 ans, au moment des faits, vous étiez sur place à Hong Kong. Hein. Je rappelle aux auditeurs, ils s'en souviennent certainement, que vous étiez la correspondante de RFI à Pékin ces années-là et vous étiez à Hong Kong. Pourquoi 4 ans? Pourquoi un procès seulement maintenant?
Alors, j'étais sur place, mais il faut que je vous l'avoue tout de suite. Tim, je ne suis pas dans le secret de la justice hongkongaise. Mais bon, ce que l'on peut dire, c'est que ce procès est politiquement extrêmement sensible. Il était donc certainement plus prudent d'attendre tout simplement que le souffle de cette révolte retombe, que le mouvement s'affaiblisse et que les juges aient donc les mains un peu plus libres. Aujourd'hui, le risque de voir des milliers de manifestants marcher sur le tribunal pour protester, pour soutenir les meneurs d'Occupy Central, c'était le nom de ce mouvement, est évidemment beaucoup moindre qu'en 2014. D'autant qu'en 4 ans, les autorités hongkongaises ont réussi à museler l'opposition. Les troupes qui étaient à l'époque très enthousiastes et très confiantes de pouvoir arracher des réformes démocratiques à Pékin sont aujourd'hui, il faut le dire, quand même démotivées. Autre explication, Tim, il a fallu du temps pour monter ce dossier contre les accusés. Pas facile, je dirais, car ils n'avaient qu'organisé des manifestations qui étaient quand même restées très pacifiques, ce qui n'est a priori pas du tout interdit à Hong Kong. 4 ans d'attente, c'est en effet long, mais il faut dire aussi que ce procès des vétérans du mouvement est loin d'être le premier. Des dizaines d'autres participants, des manifestants, militants ont déjà été jugés.
Oui, et notamment les étudiants qui étaient devenus le visage de cette désobéissance civile.
Oui, exactement, comme les étudiants Joshua Wong et Nathan Law, par exemple, c'était des véritables icône de la vague de contestation démocratique. En août 2016, déjà en première instance, ces 2 militants avaient écopé respectivement de 80 et 120 heures de travaux d'intérêt général. Mais le gouvernement hongkongais avait fait appel à l'époque et les 2 avaient été condamnés à des peines de prison de 6 et 8 mois. C'était une sanction très très dure qui a finalement été annulée par la Cour suprême. C'était en février dernier. C'était quand même un peu la preuve que la justice se jouit encore d'une certaine indépendance vis-à-vis de Pékin.
Alors Tim nous disait que les trois leaders de la révolte des parapluies étaient considérés à la fois comme des victimes mais aussi comme des héros. Ils se demandaient, ils nous demandent si finalement ça ne risque pas de peser sur leur jugement.
Oui, c'est vrai. Aux yeux de leurs partisans, les accusés sont en effet des héros de la lutte pour un véritable suffrage universel, avec des candidats qui ne seraient pas des marionnettes de Pékin. Et en même temps, ils sont victimes de la mainmise chinoise sur Hong Kong, qui est de plus en plus palpable, de plus en plus dure. Mais cette bonne image pourrait tout à fait jouer en leur défaveur, et je dis bien défaveur, car les autorités hongkongaises ne veulent ni de héros, ni de victimes, et aucune figure charismatique qui pourrait franchir cette ligne rouge tracée par Pékin. Alors, est-ce que la justice fera cette fois-ci preuve d'indépendance? C'est ça, en fait, la question clé du procès qui sera un véritable test. Si les juges, Tim, ne sont pas aux ordres de Pékin, eh bien, dans ce cas-là, l'image du professeur de droit Benny Tai, du pasteur baptiste Chu Yuming et du sociologue Chan Kin-man ne devrait pas avoir le moindre impact sur le jugement. Le jugement est attendu dans 3 semaines.
Dans 3 semaines, effectivement, et il risque tout de même jusqu'à 7 ans de prison. Tim, a-t-on répondu à vos questions?
Bien répondu, M. Rohan. Merci beaucoup.
Eh bien, merci de nous écouter à Kinshasa et un grand merci évidemment à Heike Schmidt du Service international d'être venu. 9h17 ici à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Trésor.
Bonjour M. Juan Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi de vous avoir dans l'émission. Vous nous appelez d'Abidjan, c'est bien ça?
Oui, tout c'est cela.
C'est cela, voilà. Vous avez des questions, vous, sur le président sud-africain qui est empêtré dans une sale affaire?
Tout à fait. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est contraint de rembourser 31 200 euros de fonds de campagne. Il s'agissait d'un don émis par une sulfureuse compagnie.
Oui.
Alors, qu'on appelle? Merci le patron. Alors, le président Ramaphosa avait nié en bloc toutes les accusations. Comment expliquer ce revirement?
Ah. C'est vrai, c'est une bonne question. Là. On va essayer de comprendre effectivement le positionnement du président sud-africain qui se voit accusé par l'opposition d'avoir sciemment menti devant le Parlement, puisque vous le disiez, Trésor, dans un premier temps, il a nié. L'opposition aujourd'hui est convaincue que le président Ramaphosa savait que cet argent dont on parle était de l'argent sale, pour reprendre les propos des opposants. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Correspondante de RFI en Afrique du Sud. Alors effectivement, dans un premier temps, le chef de l'État avait affirmé que ces fameux 31 200 euros avaient été versés à son fils. Mais ces derniers jours, il y a eu ce retournement de situation. Il est revenu sur sa déclaration en reconnaissant que bon, cette somme était en fait un don pour sa campagne de l'année dernière. Comment expliquer ce revirement?
Eh bien, dans cette affaire, Cyril Ramaphosa plaide en fait l'ignorance. Tout commence le 6 novembre, devant le Parlement, le chef de l'opposition attaque le président. Moussi Maïmane accuse le fils de Cyril Ramaphosa d'avoir reçu un virement suspect provenant des comptes de Bossasa, une compagnie controversée. Cette firme est un prestataire de services qui a fait affaire avec plusieurs membres de l'ANC ces dernières années. L'entreprise est mêlée à de nombreux marchés publics suspects, à des contrats louches, et elle est même l'objet d'une enquête pour fraude et corruption. Alors devant les accusations de l'opposition, Cyril Ramaphosa explique que ces versements sont une rémunération pour les activités de conseil de son fils, Andile, son fils qui est un consultant régulier auprès de Bossasa. Oui. Le président sud-africain assure qu'il n'y a pas d'irrégularité et il va jusqu'à dire qu'il serait le premier à jeter son fils en prison si celui-ci était mêlé à une affaire de corruption.
Oui, sauf que son fils Andile dément quelques heures plus tard dans les médias. Et puis c'est au tour donc de Cyril Ramaphosa lui-même de reconnaître une erreur.
Oui, c'était il y a une semaine, Cyril Ramaphosa a admis s'être trompé dans une lettre adressée à la présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine. Le virement en question était en fait destiné à financer sa campagne pour la présidence de l'ANC. C'était en décembre 2017. En gage de bonne foi, l'équipe de campagne de Ramaphosa indique que les 31 200 euros vont être retournés à Bossasa. Mais cette explication donc n'a pas convaincu l'opposition qui soupçonne un mensonge délibéré tolérée de la part du président. Les partisans de l'Alliance démocratique et leur chef Moussa Maïmane doivent manifester ce matin même à Johannesburg devant les locaux de Bossassa pour réclamer une enquête complète sur cette affaire.
Voilà, l'opposition qui réclame donc une enquête indépendante sur ce dossier. Trésor, vous aviez une autre question.
Oui. Cyril Ramaphosa a été toujours présenté comme le président anti-corruption. Alors, il voudrait savoir quel impact cela peut avoir sur sa popularité et la suite de son mandat.
Ouais, bonne question. C'est vrai qu'en arrivant au pouvoir, en prenant la tête du parti historique, en prenant la présidence du pays, il avait promis de tordre le cou à la corruption. C'est un coup dur, cette affaire, Lisa Fabian, pour le chef de l'État?
Oui, mais on est encore très loin d'un scandale d'État à ce stade. Cyril Ramaphosa s'est donc très vite engagé à rembourser cet argent, ce qui est un geste très positif. Même si l'opposition a évidemment d'ores et déjà sa démission, il faut dire que ces derniers mois, deux pointures du gouvernement, deux ministres ont dû quitter leurs fonctions pour cause de mensonges et d'affaires douteuses. Mais la lutte contre la corruption semble bien progresser en Afrique du Sud depuis le départ de Jacob Zuma. Côté législatif, Cyril Ramaphosa doit bientôt donner son feu vert pour la mise en application d'une loi qui porte justement sur le financement des partis politiques. Cette loi très attendue forcera les partis à dévoiler le nom de leurs donateurs et elle encadrera de plus près les dons faits aux campagnes politiques. Si elle avait été en vigueur il y a un an, Cyril Ramaphosa n'aurait probablement pas pu recevoir un virement de la compagnie Bossassa sans le savoir. Beaucoup espèrent en tout cas que cette loi sur le financement des partis entrera en vigueur avant les élections nationales qui sont prévues dans quelques mois en Afrique du Sud.
Merci beaucoup Lisa Fabian, en direct d'Afrique du Sud, correspondante de RFI Trésor. Bonne journée à Abidjan, merci beaucoup de nous avoir appelé à Abidjan où il est 8h22. Vous avez été nombreux à nous appeler pour témoigner après la décision du gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants non européens. Nous vous donnerons la parole dans la libre antenne dans une vingtaine de minutes. Et vous avez été quelques-uns également à nous appeler pour nous poser des questions. C'est le cas d'Ibrahima. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Bordeaux, vous êtes vous-même étudiant.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je suis doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne.
De Bordeaux, très bien, oui.
Le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a pris une mesure qui a surpris tous les étudiants étrangers, particulièrement ceux de l'Afrique. Il s'agit de la mesure de l'augmentation ou multiplication des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Cela ne risque-t-il pas de rendre la France moins attractive? Ma deuxième question. Le Premier ministre n'est-il pas en contradiction lorsqu'il dit vouloir améliorer les conditions de vie et de crédit des étudiants étrangers avec cette mesure?
Alors, c'est vrai, Ibrahima, j'entends bien ce que vous voulez et vos interrogations et vos préoccupations. C'est comment peut-on être attractif, puisque c'est le souhait du gouvernement français, en augmentant les frais d'inscription pour les étudiants étrangers? Alors, pour vous répondre avec nous, Florent Bonaventure, bonjour. Directeur de la communication et des études de Campus France, c'est l'agence de promotion de l'enseignement supérieur à l'étranger. On rappelle que l'augmentation annoncée sera effective dès la rentrée prochaine, rentrée 2019. Pour l'instant, un étudiant français et un étudiant étranger payent exactement les mêmes frais d'inscription. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises.
Oui, pour l'instant, c'est ça. Voilà. À partir de la rentrée prochaine, on aura effectivement des frais différenciés.
Des frais différents, et la différence est de taille, hein, puisqu'aujourd'hui, un étudiant en licence paye par exemple 170 euros pour s'inscrire. Dès la rentrée prochaine, il devra débourser 2770 euros. Et comme le rappelait cet étudiant de Bordeaux, pour justifier cette hausse, le gouvernement invoque la nécessité de renforcer l'attractivité des universités françaises. Comment peut-on être plus attractif si on est plus cher ?
Pour répondre à votre question, il faut remettre cette stratégie d'attractivité dans son contexte. Et ce contexte, c'est celui d'une attractivité de la France pour les étudiants internationaux, y compris africains, qui progresse très lentement depuis quelques années, si on la compare à des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie, le Canada, etc. Pourquoi ? C'est sans doute parce que ces étudiants se sentent mieux accueillis dans les universités étrangères que dans les universités françaises. Donc l'idée du Premier ministre et de ce plan d'attractivité, c'est de mieux accueillir des étudiants davantage d'étudiants, parce que l'objectif, c'est d'avoir vraiment 500 000 étudiants, donc de doubler le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France, c'est un objectif très ambitieux, et de bien les accueillir. L'idée derrière, c'est d'utiliser ces frais d'inscription différenciés. Je rappelle d'ailleurs que l'État continue à prendre en charge les deux tiers des frais d'études des étudiants. Donc d'utiliser ces frais d'inscription pour que les universités puissent améliorer l'accueil, le service de logement, pour qu'elles puissent tripler le nombre de bourses offertes aux étudiants. Tout ça en plus de mesures complémentaires comme la qui peuvent justement parler aux étudiants africains, comme la simplification, la modernisation des procédures de visa, comme le développement de campus qu'on appelle franco-étrangers, par exemple le hub franco-ivoirien ou le campus franco-sénégalais qui vient d'être inauguré. Tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie globale d'attractivité, dans lequel justement cette augmentation de frais d'inscription sert les étudiants internationaux.
D'accord, mais l'inquiétude d'Ibrahima, et comme de la grande majorité des étudiants qui nous contactent, sont des étudiants originaires du continent africain, c'est qu'ils ont quand même l'impression que le souhait désormais, c'est d'attirer les plus riches, ceux qui ont vraiment les moyens de mettre sur la table, par exemple en licence, près de 3000 euros, et par ricochet, d'écarter les plus pauvres. Et on le sait bien, les étudiants venant du continent africain sont peut-être ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir verser quasiment 3000 euros pour une licence.
Alors, d'une part, je tiens à rappeler que cette pratique des frais différenciés est également présente en Afrique. Hein. L'université Charenta Diop au Sénégal, par exemple, va faire payer davantage un étudiant français qui viendrait qu'un étudiant sénégalais.
Donc la réciprocité, c'est désormais la réciprocité alors.
C'est pas une réciprocité, c'est-à-dire que c'est assez normal que les étudiants internationaux contribuent pour un tiers à leurs études, sachant que l'État français va contribuer pour les deux tiers. Par contre, effectivement, l'idée, c'est pas du tout d'écarter les étudiants les plus pauvres, mais c'est de favoriser la venue en France d'excellents étudiants. Et donc, pour ce faire, il a été annoncé le triplement des bourses d'études. On passe de 7000 bourses à 21000 bourses. C'est pas rien, c'est un effort financier considérable de la part du gouvernement que va permettre justement cette augmentation des frais d'inscription.
Combien de bourses sont prévues? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu le chiffre de bourses prévues. 21 000 bourses pour 500 000 étudiants attendus.
Alors 21 000 bourses à partir de l'année prochaine. L'objectif de 500 000, il est à échéance 2027.
Ouais, d'accord. Vous restez en ligne. On prend une dernière question et après on sera obligé de rendre l'antenne. Anani, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez du Mans. Vous êtes également étudiant.
Oui, je suis doctorant en droit privé à l'Université du Mans depuis 2015.
Oui.
J'ai deux questions. La première question était de savoir quelles mesures le gouvernement français pense mettre en place pour aider les étudiants étrangers extra-européens déjà présents sur le territoire français afin de pouvoir assurer le paiement de ses frais de scolarité.
Alors, Florent Bonaventure, que peut-on répondre à cet étudiant qui est déjà physiquement sur place? Il étudie à l'Université du Mans. Que va-t-il se passer pour lui en octobre prochain?
Qui est que les frais de scolarité différenciés ne seront pas appliqués aux étudiants qui sont déjà inscrits dans un cycle d'études. Et ça, c'est jusqu'à la fin de leur cycle. Vous voyez, un étudiant qui est inscrit cette année en première année de licence ne va pas payer l'année prochaine 2770 euros de frais d'inscription. Il paiera les mêmes frais que cette année. Et ça, jusqu'à la fin de son cycle de licence.
Donc la mesure ne concerne que les arrivants, enfin les nouveaux étudiants étrangers.
Voilà, elle concerne que les nouveaux arrivants étrangers et tous ceux qui sont dans un cycle, qui restent dans leur cycle, qui sont en licence, en master ou en doctorat, continueront, tant qu'ils sont dans ce cycle, à payer les mêmes frais d'inscription.
Très bien. Merci d'avoir pris le temps, Florent Bonaventure, de nous avoir, pour répondre aux auditeurs de RFI. Anani, je sais que vous aviez une autre question. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. On aura l'occasion, dans la deuxième partie de cette émission, juste après le journal, de vous donner la parole. On a des étudiants de Strasbourg, de Toulon, de Bordeaux également, qui souhaitent témoigner. Et c'est un sujet sur lequel Emmanuel Bastide, 7 milliards de voisins, reviendra largement vendredi prochain. Donc voilà, on suit ce dossier évidemment de près qui vous inquiète et vous préoccupe, vous étudiants sur le continent africain. 9h30, dans quelques secondes à Paris, on revient dans 10 minutes.